J'ai une question pour vous. Saviez-vous qu'Abraham est encore plus célèbre que les plus grandes vedettes qui n'aient jamais vécu? On va parler de lui aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Abraham était un grand homme de foi. Et pourtant, il était un pécheur comme toi et moi. T'es-tu déjà posé les questions suivantes à son sujet? Par exemple, comment se fait-il qu'Abraham est encore plus célèbre que nos plus grandes vedettes d'aujourd'hui? Dieu a-t-il accompli toutes les promesses qu'il a faites à Abraham? Est-il arrivé à Abraham de désobéir à Dieu? Est-ce que l'obéissance partielle retient la bénédiction de Dieu? Comment est-ce qu'Abraham a démontré sa foi? Comment est-ce que je peux démontrer la mienne? Abraham a-t-il manqué de foi quand il est allé en Égypte? Est-ce que c'est vrai que l'Égypte est une image du monde pour les chrétiens d'aujourd'hui? Demandons à Dieu qu'il nous donne la réponse à chacune de ces questions. Il nous a donné la Bible et le pasteur Régent Joly pour nous l'enseigner. Prions. Seigneur, c'est tellement bon, tellement merveilleux d'être en ta présence et de savoir que tu désires nous enseigner. Dispose nos cœurs. Parle-nous, Seigneur, on t'écoute. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Aujourd'hui, chers amis, nous vous invitons à tourner au 12e chapitre du livre de la Genèse. Nous progressons dans notre programme de l'étude complète de la Bible. Chronologiquement, nous sommes à mi-chemin dans la Bible, car les événements vus jusqu'ici couvrent 2000 ans. Et ce même si nous n'avons terminé l'étude que de 11 chapitres. Nous progressons plus lentement désormais, car nous avons 5 ans afin de terminer notre étude de la parole de Dieu, de la Bible. Nous avons terminé notre étude des 11 premiers chapitres de la Genèse. Mais puisque nous entreprenons une nouvelle section entièrement différente, je vais premièrement faire une brève revue. Jusqu'ici, nous avons vu 4 événements majeurs. La création, la chute de l'homme, le péché, le déluge et la tour de Babel. Ces événements furent très bouleversants et nous avons vu Dieu interagir avec l'humanité entière. Dieu interagit avec la race humaine, avec l'univers entier. Maintenant, au chapitre 12 du livre de la Genèse, nous remarquons un changement de cap. Dans le reste du chapitre, un élément nouveau s'y ajoute. Dieu traitera principalement avec 4 individus. Maintenant, Dieu ne se préoccupe plus d'événements majeurs, mais d'un seul homme. Il formera une nation avec la postérité de cet homme. Donc, dans cette section, nous avons Abraham, un homme de foi. Ensuite, nous avons Isaac, le fils bien-aimé, que nous retrouverons dans Genèse 24 à 26. Ensuite vient Jacob, le fils choisi et formé par Dieu, de Genèse chapitre 27 à Genèse 36. Et finalement, nous terminerons avec Joseph qui a souffert et qui fut glorifié à partir de Genèse chapitre 37 jusqu'à la fin de ce livre. Nous avons ici les 4 patriarches que nous devons connaître pour comprendre la parole de Dieu. Et nous les étudierons dans cette section du livre de la Genèse. Dieu a démontré, et j'espère à votre satisfaction, qu'il ne peut plus traiter avec la race humaine, car, après la chute de l'homme, il y eut le péché de Caïn. Quel était ce grand péché? L'orgueil. Je vous le dis, Caïn était plein de colère, car il était fier de l'offrande qu'il a apportée à l'Éternel et qui fut rejetée. Cela l'a entraîné à haïr son frère. Ceci a conduit à l'envie, et l'orgueil est un péché de la pensée de notre esprit. Au déluge, il y eut de la convoitise, celle de la chair. Les pensées et les actions de l'homme n'avaient qu'un seul but, satisfaire la chair. Finalement, il y eut la tour de Babel, dont la construction était une révolte ouverte contre Dieu. Dieu a dû juger le monde au moyen du déluge, alors qu'il ne restait qu'une seule personne qui croyait Dieu, Noé. Si tu avais attendu une autre génération, il aurait perdu toute la race humaine. Dieu fut très patient avec l'humanité. Il a attendu 120 ans pendant que Noé construisait l'arche. Il a attendu toute la vie de Methuselah, qui a vécu 969 ans, ce qui a donné amplement de temps à l'humanité de se repentir. Mais plutôt que de faire cela, les gens persévéraient dans leur rébellion et suivaient leur voie plutôt que celle de Dieu. Après le déluge, la tour de Babel a démontré que nul ne cherche Dieu. Maintenant, Dieu change d'approche. Il s'est choisi un individu, un homme, et de celui-ci, il tirera une nation, et de cette nation sera issu un Rédempteur. De plus, il se révélera aux hommes à travers cette nation. Il semble que c'était la seule façon que Dieu pouvait le faire. Ou encore, s'il y avait d'autres méthodes, celle-ci était la meilleure. Nous pouvons faire confiance à Dieu pour faire ce qui est la meilleure chose à faire. En appelant cet homme, Abraham, Dieu a appelé un homme de foi. À la dernière émission, nous avons indiqué qu'Abraham était un des grands hommes à avoir vécu sur la terre. Nous sommes arrivés à cette conclusion en utilisant les critères de ce monde. Je pense qu'aujourd'hui, le monde accepte l'idée qu'il soit l'homme le plus célèbre. Plus de gens ont entendu parler d'Abraham que de quiconque d'autre. Trois grandes religions du monde remontent jusqu'à lui. Il y a dans le désert de nombreuses personnes qui ignorent les grands noms de l'actualité politique, culturelle et sportive contemporaine, mais qui ont entendu parler d'Abraham. Nos vedettes et nos héros contemporains seront oubliés. Mais on parle d'Abraham depuis 4000 ans. Il est difficile d'être plus célèbre, qu'en dites-vous? De plus, toujours selon les critères du monde, Abraham était généreux et très riche. Il était très riche. Il était le Bill Gates de son époque. Oui. Un instant, mon opérateur technicien me demande qui est Bill Gates. Mais il connaît très bien, il me rassure qu'il connaît très bien Abraham. Voilà, Abraham, un homme riche de son époque, un homme de foi, mais le monde ne semble pas tenir compte de cela lorsqu'il détermine que quelqu'un est grand. Mais Dieu en a tenu compte. Il dit qu'Abraham était un homme de foi. Nous verrons que sa foi fut développée au cours de sa vie. Dieu lui est apparu 7 fois dans le but d'affermir sa foi. Abraham n'était pas parfait. Il a tombé 4 fois. Dieu lui a fait subir 4 épreuves. Il les a toutes échouées, mes amis, si vous aviez été touchés par la grâce de Dieu et que vous auriez tombé, vous vous auriez relevé pour continuer votre route avec Dieu. C'est ce que nous allons voir alors que nous allons débuter l'étude de ce chapitre rempli de perles spirituelles. Ici, au chapitre 12, nous avons l'appel d'Abraham. Nous allons suivre ce fil de pensée à travers la parole de Dieu. Maintenant, lisons les 3 premiers versets qui sont d'une grande importance. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ceci est la première chose que Dieu promet à Abraham. Dieu lui en a promis 3. Ceci est un élément clé de la Bible. La suite repose sur ces 3 promesses, car le reste de la Bible est l'accomplissement de ces 3 promesses. Dieu a dit qu'il lui montrerait un pays, qu'il donnera ainsi à sa postérité. Nous ne pouvons certainement pas accuser Dieu d'avoir manqué à sa parole sur ce point. Le nom d'Abraham est très connu. Dieu a promis de faire d'Abraham une grande nation, et certainement, il est sorti d'Abraham une grande nation. C'est la nation qui a le plus longtemps existé sur terre. Aucune nation ne va à la cheville d'Israël sur ce point. De plus, Abraham sera une source de bénédiction. Bien, à travers Jésus-Christ, Abraham fut une bénédiction au monde entier. Israël fut aussi une bénédiction en proclamant la parole de Dieu. Dieu a tenu ses promesses, sauf la première qui n'est pas encore accomplie. Aujourd'hui, Israël n'occupe qu'une petite partie du territoire promis, et la nation doit se battre pour la garder. Israël ne possède pas tout le territoire promis, et certains affirment que Dieu n'a pas tenu sa promesse. Soyez plus ouverts et laissez Dieu agir. Certaines personnes ne laissent jamais Dieu le temps d'agir. Il y a 4000 ans, Dieu a promis de faire 3 choses pour Abraham. 2 de ses promesses se sont parfaitement accomplies. Dieu avait dit à la nation d'Israël qu'elle ne restera pas dans le pays si elle désobéissait et s'éloignait de lui. Aujourd'hui, Israël s'est éloigné de Dieu. Donc, la nation éprouve de la difficulté en Palestine. Ne dites pas que Dieu ne tient pas sa promesse. En fait, il agit conformément à sa parole. Le jour viendra où Dieu établira Israël dans le pays qu'il lui a promis. Et ce jour-là, la nation n'occupera pas qu'une petite partie du territoire promis. Israël occupera tout le territoire jusqu'au Tigre et à l'Euphrate. Dans la direction nord, son territoire atteindra la région occupée autrefois par la civilisation hittite, et vers le sud, jusqu'à la rivière d'Égypte, une petite rivière dans le désert d'Arabie. Israël n'a jamais vraiment occupé le territoire que Dieu lui a promis. Au sommet de sa puissance, Israël a occupé 77 000 kilomètres carrés, alors que Dieu en a promis 770 000. Pour obtenir un tel territoire, Israël devra accepter les conditions de Dieu, ainsi que le temps appointé par Dieu. L'Organisation des Nations Unies, l'ONU, ainsi que les États-Unis et l'Union européenne ne peuvent rien faire pour résoudre ce problème. Mes amis, je suis à l'aise avec ma position. Je suis convaincu que Dieu maîtrise la situation. Je ne suis pas inquiet lorsque je lis les gros titres des journaux et ce qui se passe dans le monde ne me perturbe pas. Dieu contrôle tout. Et son plan s'accomplira. Quelle fut la réaction d'Abraham à l'annonce de ses 3 promesses? Lisons le 4e verset de Genèse 12. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Déjà, Abraham désobéit à Dieu. Il n'aurait pas dû amener des membres de sa parenté avec lui. Dieu lui avait demandé de ne pas le faire. Pourquoi Dieu voulait-il qu'il sorte du pays et s'éloigne de sa famille? Nous trouvons la réponse dans le livre de Josué. Nous ne nous arrêterons pas aujourd'hui, mais je vous cite ce verset. Josué, chapitre 24, verset 2. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nakhor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Abraham était un idolâtre. Le monde était plongé dans l'idolâtrie. Dieu devait agir ainsi afin de sauver l'humanité. L'autre option était d'exterminer tout le monde et de recommencer de nouveau. Je suis heureux que Dieu n'ait pas choisi cette alternative, car je ne serais pas ici aujourd'hui, étant un pécheur moi-même. Les pécheurs auraient été exterminés. Louons Dieu qui, par sa grande miséricorde, sauve des pécheurs. Nous avons donc Abraham qui quitte Ur avec son neveu. Que se produisit-il? Genèse, chapitre 12, verset 5. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham a perdu beaucoup de temps à Charan, où il n'a rien accompli, sauf si ce n'est de retarder la bénédiction de Dieu. Dieu ne lui est jamais apparu tant qu'il n'est pas rentré dans la Palestine et tant qu'il ne s'est pas séparé de sa famille, sauf de Lot. Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Les Cananéens habitaient le pays, ils étaient les descendants de Cham. Maintenant, j'aimerais expliquer un détail important. Plusieurs commentateurs pensent qu'Abraham a quitté un pays horrible où la vie est extrêmement difficile pour habiter un beau pays, un petit coin de paradis où il y avait du blé, du vin, le miel et le lait qui coulaient. Abraham serait venu en Canaan pour améliorer son sort? N'en croyez surtout rien! Ce n'est pas ce que dit la Bible. L'archéologie nous apprend que la civilisation dure était florissante à l'époque. Abraham et Saraï auraient pu avoir une baignoire dans leur domicile. Ur était une ville prospère. Abraham a quitté tout cela pour le pays de Canaan, où vivaient les Cananéens. Les Cananéens n'étaient pas un peuple civilisé, c'était un peuple barbare et païen. Abraham n'est pas venu à Canaan pour avoir une vie plus facile. Il a plutôt obéi à Dieu. Abraham obéit à Dieu. Et voici la suite. Genèse, chapitre 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Ne laissez pas ce détail vous échapper. Abraham bâtit un autel là où l'Éternel lui est apparu. Voyez-vous, il se peut que vous ne soyez pas béni alors que vous lisez la Bible, parce qu'elle vous condamne. Nous ne vivons pas conformément à ce que Dieu nous a enseigné. Si nous sommes obéissants, Dieu bénit davantage. Nous voyons dans le cas d'Abraham que Dieu ne lui est pas apparu de nouveau tant qu'il n'a pas quitté Charan et qu'il n'a pas obéi à la révélation déjà donnée. Maintenant, Dieu lui apparaît une seconde fois. Abraham construisit un autel, ce qu'il fit souvent au cours de sa vie. Poursuivons notre lecture. Genèse 12, verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel. Il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham fait deux choses en arrivant dans le pays. Il monte sa tente, ce qui équivaut à s'acheter une maison dans un nouveau quartier en développement. Il monta sa tente, et c'était pour vivre dans le pays. Ensuite, il construisit un autel. Ce fut un témoignage de sa foi. Partout où il passait, Abraham laissa un autel en guise de témoignage. Mes amis, quelle sorte de témoignage avez-vous? Pour témoigner, il n'est pas nécessaire de laisser des traités devant votre maison. Vous n'avez pas besoin d'un autocollant sur votre pare-choc qui dit « Jésus t'aime, Jésus sauve », surtout si vous conduisez comme un déchaîné sur l'autoroute. Ce n'est pas là un témoignage. Abraham adorait son Dieu. Et les Cananéens s'en sont rendus compte. Verset 9. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Oui, le sud. Direction à prendre si vous aimez la chaleur. Abraham est un nomade. Il ne demeure pas longtemps au même endroit. Maintenant, nous arrivons à la deuxième de ces chutes. Les versets 10 à 12. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme !» Ils me tueront et te laisseront la vie. » Abraham était dans le pays où Dieu avait promis de le bénir. Dieu ne lui a pas demandé ou ordonné de quitter ce pays. Cependant, il y eut une famine, et un matin, en sortant de sa tente, Abraham observa ce qui se passait autour de lui et dit à Saraï, « Il semble que tous déménagent en Égypte. » Il y a une famine et les choses ne s'améliorent pas. Peut-être devrions-nous en faire autant. » Sarai dut répondre quelque chose du genre, « Si tu penses que cela est préférable, mon cher, allons en Égypte. Je suis ton épouse et je te suivrai. » Abraham a dû causer avec des voyageurs en route vers le sud pour fuir la famine qui s'appesantissait davantage. Un jour, il a dû dire à Sarai, « Plions les bagages et descendons en Égypte. » Et ils se mirent en route. Remarquez que Dieu ne lui a pas commandé de se rendre en Égypte. Lorsque Dieu lui est apparu la dernière fois, il a dit, « Abraham, voici le pays que je te donne. Tu y seras une bénédiction et je t'y bénirai. » Malheureusement, Abraham manque de foi en Dieu. Et il va émigrer en Égypte. Dans la Bible, l'Égypte est une image du monde. Il en est ainsi dans toutes les parties de la Bible. Je pense que l'Égypte est encore aujourd'hui une image du monde. Mais c'est là que se rendit Abraham. Il est étonnant de voir le monde attirer les chrétiens aujourd'hui. Nous excusons notre péché de toutes les façons imaginables. Les gens ne viennent pas à l'assemblée un dimanche soir, car ils travaillent le lendemain. Pourtant, c'est le sort de presque nous tous. De plus, ces mêmes personnes peuvent aller à un banquet pendant la semaine, veiller tard, aller au travail le lendemain. Il y a une exception. Si le banquet est un samedi soir, alors là, ils sont trop fatigués pour aller à la réunion à l'église le lendemain. Le monde nous attire et nous savons comment justifier notre conduite. Si vous aviez rencontré Abraham alors qu'il s'en allait en Égypte et vous lui aviez dit qu'il se trompe de direction et qu'il devrait demeurer en Canaan, alors Abraham vous aurait donné toutes sortes de bonnes excuses. Mes moutons sont rendus maigres. Il n'y a plus de pâturage en Canaan. Il y a beaucoup d'endroits pour faire paître les troupeaux en Égypte. Alors, nous y allons. » Et c'est exactement là qu'est allé Abraham. Cependant, la beauté de Sarai sera une source de problèmes pour Abraham. À la prochaine émission, chers amis, je vais vous parler d'une de ces fabuleuses et merveilleuses découvertes, celle des manuscrits de la Mer Morte. Ces rouleaux sont des papyrus qui contiennent des livres entiers de l'Ancien Testament. Ils furent découverts à Qumran. Un érudit pense avoir découvert quelque chose qui discréditerait la Bible. Il ne semble pas avoir découvert de contradiction dans la Bible. Je vais vous expliquer comment un de ces rouleaux confirme la Bible lors de la prochaine émission. Lorsqu'ils ont découvert ce rouleau, ils ne se sont pas rendus compte immédiatement de ce qu'ils avaient en main. Il est préférable de ne pas trop écouter tous les spécialistes tant que les analyses des découvertes ne sont pas entièrement complétées. Chers amis, comme je l'ai déjà dit, nous verrons encore une fois que quelqu'un étudiant la parole de Dieu ne sera pas surpris par ce genre de découvertes. Elles ne font qu'appuyer ce que l'on sait déjà. Préparons-nous à la prochaine émission en lisant Genèse chapitre 12, verset 13, à Genèse chapitre 14, verset 11.
Merci, Régent, pour le bon enseignement. On a vu aujourd'hui qu'on a plusieurs raisons d'admirer Abraham. Il était un homme de grande foi. Mais il a désobéi à Dieu à certains moments, comme toi et moi. Il a eu besoin de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est le pardon qu'il nous accorde par pure bonté. Combien de fois j'ai eu besoin de cette miséricorde? Premièrement, avant que je parvienne à la connaissance de ce qu'il avait fait pour moi, pour m'accorder le pardon de mes péchés en envoyant son Fils. J'ai péché beaucoup dans ma vie. J'en rougis aujourd'hui, mais j'aime le dire aux gens. J'aime me rappeler où est-ce qu'il est venu me chercher. J'étais une grande pécheresse. Il m'a tout pardonné. Alors j'ai eu besoin de cette miséricorde. Puis j'en ai encore besoin depuis que Dieu est devenu mon Père. Depuis que je suis devenue une enfant de Dieu, je suis loin d'être devenue automatiquement parfaite. mais je sais que lorsque je lui désobéis, que je m'en rends compte, puis que je me tourne vers lui pour lui demander pardon, il m'accueille avec plein d'amour, il m'accueille tout de suite, il me pardonne, il remet la joie dans mon cœur. Il n'y a pas de plus grand amour que celui de Dieu. Puis une chose extraordinaire, c'est que même si je pêche encore, j'ai l'assurance que je ne perdrai pas le salut qu'il m'a donné, la vie éternelle qu'il m'a donnée il y a plus de 25 ans. Il m'a fait un cadeau, le cadeau de la vie éternelle. Puis il ne reprendra jamais son cadeau. Tu connais le verset Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ce que Dieu donne, il donne, il ne le reprend pas. Il dit pas qu'après ça, là, si on pêche, après qu'il nous a donné la vie éternelle, il va nous enlever ce cadeau-là si on pêche. Alors c'est merveilleux de devenir un enfant de Dieu et d'avoir sa miséricorde qui coule sur nous à chaque jour. On a besoin de sa miséricorde. Es-tu devenu un enfant de Dieu? As-tu reçu ce beau cadeau? Parce qu'il t'est arrivé à un moment donné de pécher, de t'imaginer que tu ne pouvais pas retourner à lui. Si ça s'est arrivé, probablement que tu t'es éloigné de plus en plus de lui. Mais aujourd'hui, il t'appelle à revenir. Tu es son enfant. Reviens-lui. Reviens à ton père. Il va faire comme il a fait avec l'enfant prodigue. Le père de l'enfant prodigue, il a accueilli son enfant à bras ouverts quand il est revenu à la maison. Eh bien, reviens à la maison. Si tu t'es éloigné de Dieu, si tu t'es laissé endormir par tes épreuves, par la tristesse ou par les plaisirs du monde, mets tout ça derrière toi. Repens-toi de nouveau. Tu n'as pas perdu ton salut. Tu n'as pas perdu la vie éternelle. C'est un cadeau que Dieu t'a fait. Et ce qu'il donne, il ne le reprend pas. Alors, tourne vers lui les regards. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. De triste que tu es, tu vas redevenir tout joyeux et tu vas avoir encore le goût de partager avec les gens qui t'entourent combien Dieu est merveilleux et ce qu'il veut faire pour les autres. Tu vas te tourner vers les autres après, comme Dieu s'est tourné vers toi un jour. Dieu est merveilleux. Tourne vers lui les regards. Je le répète, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie.
Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous! Vous pouvez recevoir par le feu même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offert à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformée par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-LESPOIR, ou via notre site Internet, www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H6H4. Ici Régent Joly qui vous dit à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.